Les gens ont dit que la génération de mon père était la plus grande génération. Les gens disent que le vôtre est le pire. Théologiquement, c'est faux. Nous sommes tous fils et filles d'Adam. Nous sommes tous nés avec la même corruption. Mais ce que je dirais, c'est ceci, dans ma faible connaissance de l'histoire du monde, je dois dire qu'il n'y a jamais eu sur la face de la Terre une génération de plus bombardée de tromperies. En fait, quand on regarde la tour de Babel, c'était un jugement. Mais vous devez comprendre que même dans le jugement d'Adam et Ève, la tour de Babel, il y a un élément de miséricorde divine. Comment la miséricorde a-t-elle été manifestée à Babel? Dieu a divisé les nations. Ils avaient des voix différentes, des langues différentes, de sorte qu'ils ne pouvaient pas communiquer entre eux. Ce qui signifiait qu'ils étaient séparés. Alors, regardons les choses de cette façon en ce qui concerne un corps humain. Si ma main a un cancer, c'est une chose horrible, mais on pourrait me couper la main et alors je serais sauvé. Le reste de mon corps est sauvé. Et à certains égards, c'est ce qui s'est passé dans la tour de Babel. Les nations étaient tellement divisées que si quelqu'un tombait dans la corruption au point d'être réprouvé par les Romains, eh bien, ils étaient séparés du reste des nations. Mais maintenant, nous voyons quelque chose comme une reconstitution de la tour de Babel. De sorte qu'une certaine saleté réprouvée qui est engendrée à Hollywood à 8 heures du matin fera le tour du monde à midi. De plus, vous êtes bombardés d'informations, 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 d'informations. Et pourtant, la plupart des gens ne donnent pas les compétences nécessaires pour pratiquer le discernement. Les systèmes de logique et autres qui ont construit la civilisation occidentale telle que nous la connaissons sont pratiquement détruits, même les choses les plus simples, comme la loi de contradiction, de non-contradiction. Et donc ce que vous voyez maintenant est un scénario parfait pour le mal. Nous ne sommes pas un peuple pensant. Nous ne sommes pas un peuple tranquille. Nous ne sommes pas un peuple qui lit bien les Écritures ou même les classiques. Et donc ce que nous avons fait, c'est ce que même les philosophes laïcs avaient prophétisé il y a 50 ans et qui s'est maintenant produit. C'est un nouvel âge sombre. On m'a demandé il y a quelque temps, vous savez, d'envoyer des enfants à l'école publique, et j'ai dit, non, 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 arrêtez. Vous devez comprendre quelque chose. Quand j'allais à l'école quand j'étais petit garçon, souvenez-vous de mes professeurs, nous avons récité le serment d'allégeance et nous avons prié dans mon école. Donc, même s'il y avait une offre abondante de mâles, même à mon époque, aujourd'hui, envoyer quelqu'un à l'école publique, c'est simplement envoyer quelqu'un dans un temple païen. Juste un temple païen. Et donc il n'y a jamais eu de génération, je pense, comme votre génération, parce que le mal est si global, si prononcé. Je l'ai dit plusieurs fois dans la prière à Dieu intercédant qu'il fut un temps où dans de nombreuses nations de l'Occident, le nom de votre fils était honoré. Et puis est venu un moment où le nom de votre fils a été blasphémé. Maintenant, ce n'est même pas digne d'une mention honorable. Pas même sur les lèvres de ses ennemis. Mais voici le problème, au milieu des ténèbres du premier siècle, vous avez la possibilité de vivre comme des chrétiens du premier siècle. Mais alors, comment allez-vous vivre? Comment allez-vous vivre? Je nous veux, on va faire le tour avant d'arriver à notre passage principal. Je veux que nous allions d'abord avec moi pendant une minute à 1 Corinthiens chapitre 13 verset 11. Verset 13. Verset 11. Maintenant, ce texte a à voir avec la vertu, ne pas se perdre dans le trivial, mais étant mature. Et le plus grand signe de maturité, bien sûr, c'est l'amour. Mais il a une application beaucoup plus large. Il a dit, « Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Quand je suis devenu un homme, j'ai supprimé les choses enfantines. » Alors ici, nous voyons quelque chose. Tout comme quand il est dit dans la Bible, Dieu les a créés hommes et femmes. Nous avons un principe fondamental. Il y a des hommes et il y a des femmes. Un autre texte dont nous pourrions nous inspirer, 1 Corinthiens 15, agissez comme des hommes. Cela signifie que les hommes agissent d'une certaine manière, les femmes agissent d'une certaine manière. Ils réagissent différemment aux choses, et ça ne rend pas l'un plus juste que l'autre. Ils sont juste différents. Créés ainsi à l'image de Dieu. Ici, nous voyons quelque chose de très, très important, c'est qu'il y a une différence entre un enfant et un adulte. Maintenant, un enfant est une belle chose. J'ai 61 ans et j'ai une fille qui vient d'avoir 7 ans. Et tout le monde me dit, c'est une belle petite fille que tu as. Et je dis, eh bien, c'est ma fille et elle est grande, donc je suppose que, oui, c'est bien. C'est ma petite fille. C'est une belle chose pour moi de marcher dans le parc, ou même de traverser le parking, en tenant la main de ma fille parce qu'elle a 7 ans. Mais c'est ridicule, voire un peu dégoûtant, si je marche dans le même parc, que je traverse le même parking, avec mon fils de 21 ans qui mesure 6 pieds 5 pouces. Il y a une différence. Je me rapporte à eux différemment. Maintenant, vous les jeunes devez comprendre quelque chose. Encore une fois, je veux répéter que vous n'êtes pas plus corrompu ou plus perdu que n'importe quelle génération, mais vous avez été bombardé de mensonge après mensonge après mensonge. C'est arrivé au point où en fait, eh bien, permettez-moi de partager avec vous quelque chose qui m'est arrivé à l'université il y a de nombreuses années. Ce type me disciplinait, et je l'admirais, et nous avions le même cours de psy. Il l'avait une heure avant moi. J'avais l'heure, bien sûr, après lui. Et le professeur était antichrist. Je veux dire, littéralement, il se lèverait devant 500 étudiants et se moquerait de Dieu. Je veux dire, c'était incroyable. Eh bien, un jour, alors que j'entrais en classe, mon ami sortait, il souriait. J'ai dit, « Pourquoi souris-tu ? » Il dit, « J'adore cette classe. J'adore absolument cette classe. » Et j'ai dit, « Pourquoi ? » Cela m'aide à connaître la volonté de Dieu. Et j'étais un jeune croyant, alors je me dis, « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Il y va, j'écoute tout ce que dit le professeur. J'écris tout. Je fais le contraire et j'ai les écritures. C'est la culture dans laquelle nous vivons. Ce n'est pas à l'envers, mais à l'envers. Et ce n'est pas notre travail d'accepter cela, d'être passif ou de gémir ou de faire le tour des wagons. Je suppose que les petits-enfants feraient cela, mais nous ne sommes pas des petits-enfants. Vous êtes appelés à être des hommes. Et les femmes. Et vous devez traverser les étapes de l'enfance, vous êtes dans chacune de ces étapes. C'est délicieux, mais vous ne pouvez pas y rester, mais votre culture vous dit d'y rester. C'est absolument stupéfiant quand je regarde votre culture à quel point l'enfantillage, la folie et l'absurdité sont exaltés. Laisse-moi te donner un exemple. Un jour, un de mes amis, un homme plus âgé, un homme très gentil et très pieux, a vu un groupe de filles dans son église, et elles parlaient tout ensemble comme un groupe d'environ 10 filles, très pieuses, très sérieuses au sujet de leur marche. Et il a juste un peu, vous savez, un peu à la manière d'un grand-père dit en plaisantant, « Eh bien, les jeunes filles, il y a beaucoup de jeunes hommes ici, vous savez, qui aiment le Seigneur. Priez-vous ? » Et ils ont dit non. Il a dit, « Pourquoi ?» Et d'une seule voix, ils ont dit, « Eh bien, vous savez, ils lisent leur Bible, ils vont à des études bibliques et ils sont moraux. Mais nous ne confierions jamais nos vies à ces jeunes hommes. Je veux dire, ils traînent ensemble quand ils ont un peu d'argent supplémentaire, ils achètent des Nike ou un jeu vidéo. Ce sont des petits garçons. Et donc vous voyez, vous pouvez être un lecteur de la Bible et vous pouvez être moral, mais vous n'avez pas pris sur vous le manteau de la virilité et vous devez le faire. Avec une urgence. Vous devez le faire le plus rapidement possible. Quand je regarde la civilisation occidentale et que je vois des jeunes hommes qui sont partis à la guerre pendant la Seconde Guerre mondiale, 18 ans, certains d'entre eux ont menti sur leur âge, 16 ans, 15. J'ai rencontré des hommes de la tribu Agaduna au Pérou qui, quand je leur parlais, vous savez, voyaient un jeune homme de 16 ans et découvraient qu'il était marié. Il a construit sa propre hutte, avait son propre jardin et était un bon chasseur. Maintenant, ce que vous devez voir, c'est que tout dans votre culture est faux. Et c'est probablement au cours des 5 ou 6 dernières décennies, il est juste picoré et picoré et picoré et picoré jusqu'à présent, le barrage a entièrement, eh bien, il est cassé. Une fois au Pérou dans les montagnes, j'étais dans ce seul village. Et ces villages ont des génisses, des patrons, des chefs. Et s'ils te disent de faire quelque chose, tu dois le faire. Peu importe qui vous êtes. Alors je restais là, je prêchais l'évangile, et ils sont venus un jour et ont dit, vous allez faire des travaux routiers demain. Toute la journée. M'a donné une pioche. Alors, lève-toi le matin. Et l'une des choses les plus étonnantes, vous voyez des hommes là-bas et ils ont ces grosses pioches et ils frappent juste avec des masses et des pioches sur ces gros rochers. Vous voyez ces femmes. Et elles ont ces barres qui mesurent environ 2 mètres, environ cette taille, faites de fer solide. Et ils se tiennent simplement au sommet du rocher comme ceci, le soulèvent et s'en vont comme ceci. Boum. 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 Vous pensez, je veux dire, une heure et demie, rien ne se passe. Et puis tout d'un coup l'énorme rocher se fissure en deux. Juste sans relâche, et c'est ce qui se passe dans votre culture et cela vous a beaucoup plus touché que vous ne le pensez. Maintenant, je sais que certains d'entre vous ont été élevés bien mieux que je ne pourrais jamais l'imaginer. Je sais que certains d'entre vous viennent de parents fidèles et fidèles. Je tiens à reconnaître tout cela, mais vous devez comprendre que cela vous a beaucoup plus touché que vous ne le saurez jamais. Et l'une des choses n'est pas nécessairement immorale, mais amorale. C'est un vieil adage que nous avons. Les moments difficiles font les gens forts. Les personnes fortes font les bons moments. Les bons moments font les personnes faibles. Est-ce que tu vois? Il est temps de grandir. Il est temps de grandir. Il est temps de grandir le plus vite possible. Pas de manière ridicule. Pas, comme Paul l'a dit, en battant l'air. Ne tourne pas en rond. Mais avec une urgence et un sérieux, il est temps de mettre de côté les choses puériles. Cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas être joyeux, cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas jouer, cela ne signifie pas que nous devrions, vous savez, passer certaines étapes de notre développement, cela ne signifie pas que nous ne devrions pas avoir de camaraderie et de joie les uns dans les autres, mais cela signifie que nous devons être sérieux. Vous vivez dans un monde qui est sur le point de se détruire, vous vivez dans une culture qui est réprouvée. La plupart d'entre vous ont lu Romains, est-ce exact? Vous avez lu celui de Romains. Vous voyez le péché de la perversion sexuelle, puis cela continue à partir de là et vous voyez la violence et l'animosité et aucune fidélité, aucune haine les uns envers les autres et aucune haine envers Dieu. Beaucoup de gens regardent Romains 1 et disent, « Mec, quand tu vois ces choses, le jugement de Dieu arrive. » Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ce que ce passage enseigne. Pas du tout. Ce passage enseigne cela lorsque vous voyez ces choses. Le jugement de Dieu est déjà tombé. Il a déjà renversé la culture. Eh bien, pourquoi? Quel plus grand péché pourrait-il y avoir que la perversion sexuelle et tout cela, vous savez, prendre les fondements même de la création et les tordre et les détruire? Quel pourrait être un péché plus grand que cela? Oh, si vous posez cette question, vous ne comprenez pas grand-chose à propos de Dieu. Quel pourrait être un plus grand péché que tous ces horribles péchés qui sont énumérés dans Romains 1? Eh bien, c'est simple. Bien qu'il connaissait Dieu, il ne l'honorait pas comme Dieu et ne rendait pas grâce. Vous voyez, le plus grand péché qui puisse jamais être commis est de ne pas répondre de manière appropriée à Dieu. Celui qui t'a fait, qui te soutient, ce qui pour moi est absolument, c'est même, c'est plus grand que la création. Il ne t'a pas seulement fait, chaque battement de ton cœur vient de lui, chaque souffle vient de lui. Ne voyez-vous pas cela? En plus de cela, c'est son propre caractère. Même s'il n'avait rien fait pour vous, il est en lui-même digne de toute adoration, honneur et gratitude. Et donc maintenant nous vivons dans cette culture dans laquelle Dieu n'est même pas mentionné. Ce n'est certainement pas à craindre. Où ceux qui croient en Dieu sont traités comme s'ils étaient une sorte d'imbécile préhistorique. Jeunes, comprenez, s'il vous plaît, à part un acte de miséricorde extraordinaire, une tempête se prépare. Contrairement à tout, aucun d'entre vous, contrairement à tout ce que j'ai jamais vu. Voulez-vous parler de compter le coup? Allons un instant à Jérémie. Chapitre 12, verset 5. Maintenant Jérémie se plaint, je le comprends bien, j'ai honte, même dans mes vieilles années, je fais de même. La tentative de vivre une vie droite est extrêmement difficile lorsque vous êtes derrière les lignes ennemies dans un monde qui est sous le pouvoir du malin. Mais regardez ce qu'il dit à Jérémie. Si vous avez couru avec des valets de pied et qu'ils vous ont fatigué, alors comment pouvez-vous rivaliser avec des chevaux si vous tombez dans un pays de paix? Comment ferez-vous dans le fourré du Jourdain? Que dit-il? Il dit, Jérémie, ce n'est que le chapitre 12. Si tu penses que tu as souffert, tenez votre ceinture. Vous n'avez même pas commencé à souffrir. Si ces petites afflictions en ce moment vous déstabilisent, vous font grogner, pleurer et gémir. Comment vous tiendrez-vous quand la vraie bataille commencera? Maintenant, je loue Dieu pour la plupart d'entre vous. Beaucoup d'entre vous ont été élevés dans des familles pieuses, avec des pères et des mères qui craignent le Seigneur et qui vous ont aimés. Et pourtant, vous devez reconnaître que votre combat de Romains 7 contre le péché a parfois été formidable. Ton ingratitude, tes gémissements, l'idolâtrie, n'est-ce pas? Des attentes non satisfaites. À quoi cela ressemblera-t-il lorsque vous ne pourrez ni acheter ni vendre? Comment cela se passera-t-il lorsque vous serez calomnié, accusé et maltraité? À quoi cela ressemblera-t-il lorsque vous devrez faire un choix entre si vous vous adaptez ou si vous suivez le Christ? Ou allons encore plus loin, que vous viviez ou suiviez le Christ? Ou pire encore, parce qu'il y a quelque chose de pire que la mort. C'est une vie de souffrance. Que ta vie ne sera que souffrance. Allez-vous renflouer? Si vous vous débattez maintenant, si vous êtes en ligne maintenant, Si parfois vous êtes dedans et parfois vous êtes dehors maintenant dans ces eaux calmes, qu'est-ce que ça va être quand tout d'un coup, faute d'une meilleure phrase, tout l'enfer se déchaîne? Ce sont les pires moments. Ce sont les meilleurs des temps. Encore une fois, à l'approche du paganisme du 1er siècle, à l'approche de la persécution du 1er siècle, l'opportunité de vivre comme les chrétiens du 1er siècle approche. Et sachez-le, beaucoup de vos frères souffrent déjà. Cela fait partie de ce que fait le cri du cœur. Nous travaillons constamment dans des pays essayant de faire sortir les chrétiens de certains endroits, de la prison, de cette frontière, à travers une autre, en sécurité, dans une maison sûre, les cacher, tout. Nous avons des frères partout dans le monde. Et il n'est donc pas inhabituel que je vous dise que vous allez souffrir. C'est inhabituel que tu ne l'aies pas fait. J'ai entendu une histoire il y a des années. Quelqu'un a demandé à un frère chinois quand pensait-il que la grande tribulation commencerait? Le frère chinois a répondu, « Nous traversons la grande tribulation depuis 100 ans. Qu'est-ce que tu veux dire quand est-ce que ça va commencer? Mon but n'est pas de faire un point sur l'eschatologie, mais juste de faire remarquer qu'il n'est pas inhabituel dans le royaume des cieux lorsque nous souffrons pour l'amour de Christ, c'est inhabituel lorsque nous ne le faisons pas. Maintenant, que devez-vous faire? Préparer. Se préparer à quoi? Se préparer à survivre? Oui. Survivre. Mais pas seulement pour survivre. Pour aller de l'avant. Ce n'est pas le moment pour les petits cœurs et les esprits serrés, minables peu égoïstes, je veux ma meilleure vie maintenant, une sorte de christianisme. C'est le moment de faire de grandes choses. Les héros ne se font pas en temps de paix. Il n'y a pas d'acte de bravoure en eau calme. Je ne me souviens pas qui c'était, mais un militaire sur le terrain, un commandant, son homme s'est approché de lui et a dit, je crois que c'était le capitaine. L'ennemi est au nord, l'ennemi est au sud, l'ennemi est à l'est, l'ennemi est à l'ouest. Nous sommes entourés. Et le capitaine a dit, merveilleux, il n'y a aucun moyen qu'il s'échappe maintenant. Permettez-moi de vous montrer un passage sur lequel quelqu'un devrait écrire un livre. Parce qu'il a été perdu, parce qu'il semble. Eh bien, laissez-moi juste le lire. Laissez-moi vous lire. Et je vous garantis que si je lis ceci et que je ne vous dis pas que c'est dans la Bible, certains d'entre vous penseront que je l'ai tiré de la littérature spartiate. Regardez comment Paul décrit un chrétien. Maintenant, écoutez simplement. À ceux qui, en persévérant et en faisant le bien, cherchez la gloire, l'honneur et l'immortalité. Cela ne ressemble-t-il pas à quelque chose tiré d'un livre de guerre spartiate? De ce christianisme efféminé, passif, pitoyable, monacal. Le genre qui fait ça et se recroqueville. Ce n'est pas ce que nous voyons ici. Que voyons-nous? Cherchant la gloire. Vous savez, si ce n'était pas dans la Bible, immédiatement certains d'entre vous ont dit, « Non, nous ne sommes pas censés chercher la gloire, nous sommes censés chercher la gloire de Dieu. » Eh bien, en fait, Jésus dit qu'il est bon de chercher la gloire de Dieu, pas seulement de chercher la gloire de Dieu, mais de chercher la gloire de Dieu. Regardez juste un instant, regardez juste Jean 5.44. Il dit, s'adressant aux dirigeants de l'époque, « Comment pouvez-vous croire quand vous recevez la gloire les uns des autres et que vous ne cherchez pas la gloire qui vient du seul et unique Dieu ?» Jésus y a apposé son sceau. Et donc Paul n'a pas tort, n'est-ce pas? Il devrait y avoir un sens. Et pas seulement en vous les hommes, mais en vous les femmes. Que tu désires, il y a quelque chose en toi qui veut se battre jusqu'à ce que ton nom soit appelé. Et vous laissez tomber votre épée et vous franchissez ses portes, ensanglantés et battus, à la recherche d'un sourire. Bien joué. Bravo. Juge-moi. Je m'en fiche. Je veux cela. Je peux désirer cela plus que tout ce que je désire. Je me souviens, mon père était un grand homme, c'était un homme fort, c'était un homme effrayant. Mais je voulais lui plaire. Et je me souviens, j'étais, vous savez, dans un match de basket, quand je marquais, je veux dire, c'était automatique. Quand j'ai marqué, c'était regarder en l'air et voir s'il regarde. C'est tout ce que je voulais, voir s'il regarde. Je n'ai pas changé. Je n'ai pas changé. Et il n'y a rien de mal à cela. Et c'est l'une des choses, disent les gens, qu'est-ce qui vous motive? Je veux dire, on pourrait comprendre que tu parles de cette façon et que tu vives comme tu le fais. Vous savez quand vous aviez 26 ans et dans les jungles du Pérou, mais pourquoi maintenant? Vous avez 61 ans. C'est la même chose. Chaque nuit, jette mon épée et lève les yeux. As-tu vu ça? Cherchez-vous? Recherchez la gloire, l'honneur et l'immortalité. Imaginez. Au Pérou, il y a un dicton où mes amis l'utilisaient, je ne sais pas si c'est un dicton national ou pas, mais le dicton était celui-ci, j'avais un ami, Pacolo, il disait, tu vives pour quel air gratuitement. La seule raison pour laquelle vous êtes en vie, c'est parce que l'air est gratuit. Tu ne fais rien de ta vie, c'est ce que ça veut dire. Pensez à ça. Il y a des hommes d'une force extraordinaire, j'adore regarder l'haltérophilie, c'est absolument époustouflant, une force extraordinaire, et un jour ils seront si faibles qu'il faudra les conduire aux toilettes. Il y a des femmes d'une beauté extraordinaire, mais ça fleurit si vite et puis ça s'estompe. Il y a des hommes et des femmes de lignée noble. Qu'ont-ils fait? Ils ont donné leur vie entière pour construire des royaumes et des nations. C'est un semblant de noblesse. Regardez les gens qui ont même construit cette nation. Et pourtant, malgré tous leurs efforts, certains d'entre eux ont donné leur propre vie. Tout leur génie, tout leur éclat, tout leur travail, tout leur labeur, tout. Et maintenant regardez, ça n'a pas duré. Un régime vient en remplacer un autre, tout tombe en poussière. Il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de royaume dans ce monde que vous pouvez construire qui ne s'effondrera pas. Il n'y a rien que vous puissiez chasser qui ne vous échappe. Il n'y a aucun prix qui ne rouille pas. Il n'y a pas de beauté qui ne se fanera pas. Il n'y a pas de faiblesse qui ne mourra pas. Alors pourquoi vivre? Eh bien, si nous étions dans le monde, nous n'aurions pas de réponse. Mais nous avons une réponse. Il y a là-bas une gloire éternelle, un honneur éternel. Il y a l'immortalité. C'est servir un roi qui est incorruptible. Il y a vivre pour un royaume, se battre pour un royaume, mourir pour un royaume qui ne finira jamais, jamais. Et je vais être honnête avec vous, je veux accrocher mon bouclier dans le hall qui est là au paradis. J'ai appris cela avant même de devenir croyant. Comme je l'ai dit, je craignais énormément mon père et j'admirais mon père. Et quand j'avais 17 ans, mon père et moi construisions une clôture pour nos chevaux. Et nous faisions passer du fil, ce qui signifiait que nous avions un rouleau de fil et une grosse barre de fer entre nous. Le rouleau de fil était suspendu là et nous étirions le fil. On parlait de choses. J'étais presque sa taille. Il était deux fois plus large que moi. Et tout d'un coup, je l'ai entendu crier. Je marchais et je l'ai entendu crier. J'ai laissé tomber le fil, je l'ai attrapé, nous sommes tombés au sol. Il était mort. J'ai travaillé sur lui pendant, je ne sais pas, 10 minutes avec ce que j'avais appris sur la RCR et tout, puis j'ai dû courir à travers le terrain, sauter par-dessus la clôture, signaler une voiture. Il est mort. À ce moment, j'ai réalisé que peu importe à quel point tu es riche, tu mourras. Peu importe votre force, vous mourrez. Peu importe si vous tombez amoureux. Elle va mourir. Vous mourrez. Peu importe si vous construisez un empire et que vous êtes l'homme le plus riche du monde, vous mourrez. Tout n'est que futilité, tout n'est que vanité, c'est stupide, et s'il y a un Dieu, c'est cruel. Et après 5 ans, 4 ans et demi d'ivresse, de péché, et de débauche, de colère, de dégoût, de bêtise. Quelqu'un m'a parlé de Jésus. M'a donné une Bible. Je l'ai ouverte un jour. Il disait, les jours de l'homme sont comme l'herbe, comme la fleur des champs, ainsi il fleurit, mais le vent passe sur lui. Il n'est plus, et le lieu ne le reconnaît plus. J'étais tellement en colère que je l'ai posé sur le lit ou je l'ai jeté sur le lit. Et dans une réponse horrible, j'ai dit, merci de m'avoir dit quelque chose que je ne savais pas. Mon père était le monde pour moi. Il était important. Mais à ses funérailles, les gens parlaient de la météo, de nos sports. Quand le vent passa sur lui, il n'était plus, et le lieu ne le reconnut plus. J'étais tellement en colère. Puis je suis revenu, j'ai ramassé le livre. Mais l'amour du Seigneur est éternel sur ceux qui le craignent. Éternel. Éternel. Le voilà. Le voilà. Je meurs. Je me relève. Je deviens faible. Je suis élevé incorruptible. Je regarde la femme avec qui j'ai vécu pendant 40, 50, 60 ans. Sa beauté disparue, son corps flétrit. Elle rend son dernier souffle. Je viens de l'envoyer en avant. Je la reverrai. Vous voyez, l'évangile de Jésus-Christ, comme l'a écrit un de mes amis dans sa dissertation, l'évangile de Jésus-Christ est ceci. Avec sa résurrection, il arrache le couvercle du tombeau et remplit les ténèbres de lumière. C'est ce qu'il est, c'est ce qu'il fait. Vous dites, frère Paul, il s'agit de grandir jusqu'à la maturité. Pourquoi? à cause de l'espoir qui est devant vous. Vous devez grandir jusqu'à la maturité pour son honneur. Vous devez grandir jusqu'à la maturité. Pourquoi ? Une bataille arrive qui dépasse ce que vous êtes en ce moment. Vous devez grandir jusqu'à la maturité. Pourquoi ? Pour le servir. Vous devez grandir jusqu'à la maturité. Pourquoi ? Parce que cela a un sens. Un athlète qui s'entraîne, c'est incroyable dans certains pays, il trouve une force exceptionnelle, par exemple en Chine, il trouve un garçon exceptionnellement fort à l'âge de 5 ans. Il commence à le former à l'haltérophilie olympique. Il voit qu'il est doué. Ils font partie des meilleurs haltérophiles olympiques au monde maintenant. Mais cela signifie qu'au moment où il le repère, tout change dans sa vie. Il ne mange plus ce que tout le monde mange. Il ne dort pas comme tout le monde dort. Il ne sort pas et ne joue pas après l'école. Toute sa vie est consacrée à une seule chose. Et quand il a 19 ou 20 ans, il participe aux Jeux Olympiques et il remporte une médaille d'or. Ce n'est pas vraiment de l'or. Et puis il meurt. Mais regardez sa vie. J'ai écrit un livre, Le Christ prééminent, et j'y mets que si nous regardons simplement certaines personnes laïques dans certaines situations laïques, cela devrait nous être une réprimande. Un homme qui va littéralement tout perdre pour amasser des richesses. Et pourtant, nous ne pouvons rien perdre pour gagner des richesses au paradis. Un athlète qui s'entraînera pour une médaille d'or qui n'est pas de l'or, et pourtant nous ne nous entraînerons pas, nous disciplinons dans le but de la piété, afin que lorsque nous nous tenons devant lui en ce grand jour, nous obtenions gloire, honneur et immortalité. Est-ce que tu vois ? Oh, les jeunes, ne perdez pas votre vie. Ne perdez pas votre vie. Il n'y a rien que vous possédiez dans ce monde auquel vous puissiez vous accrocher. Rien, mais vous pouvez tout envoyer avant vous. Et il est si fidèle. Je marche avec lui depuis plus de 40 ans maintenant. Pas un seul de tous ces bons mots qu'il a prononcés n'est tombé au sol. Je n'ai contribué à mon salut que par mon péché et rien à mon ministère que ma faiblesse. Et pourtant il a été fidèle. Ai-je des regrets ? Je ne regrette rien de ce que je lui ai donné. Je ne regrette que ce que j'ai gardé pour moi. Pourquoi es-tu en vie ? Pourquoi vas-tu vivre ? Retraite ? Facilité de vie ? Vous êtes fait pour bien plus que cela. Tu as été créé dans l'image de, tu as été créé à l'image de Dieu. De Dieu. Tu es son fils et sa fille. Vous devez grandir dans cela, dans la tête, dans la conformité à son seul vrai fil. Parfois, les gens comprennent mal, ils me regardent et ils disent, vous savez, il est si sérieux, il est tellement ceci et cela, si sombre, donc toujours en train de pousser. Non, j'adore les fêtes. Et j'adorerais m'asseoir au bord de l'eau pendant des jours et juste entendre les vagues. Et j'aime l'art et la musique. Mais l'un de nos pères fondateurs a dit ceci, je dois étudier la guerre pour que mon fils puisse étudier l'architecture, pour que mes petits-enfants puissent étudier l'art. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes derrière les lignes ennemies. Nous sommes en territoire hostile. Ce sont les pires des temps. Ce sont les meilleurs des temps. Ce n'est pas avec un oreiller moelleux qu'on fait des héros. Si j'avais le temps, dans mes 40 ans, je pourrais parcourir une liste de personnes dont vous n'avez même jamais entendu les noms. Et si je vous racontais des témoignages de leurs grandes et puissantes œuvres, vous ne me croiriez même pas. Des hommes faibles qui pénètrent dans des jungles sombres, des femmes qui ont défié les armées. Non, je ne parle pas d'il y a 300 ans, il y a 200 ans. Je ne parle pas du premier siècle. Je parle maintenant. Que ferez-vous ? Que ferez-vous ? Comment allez-vous vivre ? Vivras-tu pour lui ? Et vivrez-vous pour son peuple ? Vous savez, Dieu nous donne des familles, mais il y a toutes ces leçons spirituelles dans les familles. Je me battrai et mourrai pour mes filles et mes fils. Je me battrai et mourrai pour défendre l'honneur de ma mère et de mon père. Je me considérerai comme un lâche pour faire autre chose. Et vous voyez, voici ce que vous devez comprendre, j'ai des mères et des pères et des frères et sœurs et des fils et des filles en Chine. En Corée du Nord. En Afghanistan, au Moyen-Orient. J'ai de la famille qui ne connaît même pas encore leur famille parce qu'ils n'ont pas entendu l'évangile de leur salut. Je suis plus âgé et malade. Qui va me remplacer ? Qui va remplacer tous ces autres que j'ai côtoyés ou observés ? Qui va entrer dans la bataille et souffrir une douleur incroyable, mais pas de joie ? Et la puissance de sa présence au-delà de tout ce que vous pourriez imaginer. Que ferez-vous ? Nous vivons entre deux jours. Le jour où Christ a été pendu au calvaire, et le jour où tous les hommes se tiendront devant Christ, y compris nous, nous vivons entre deux jours. Comment ces deux jours magnifiques et terribles impacteront-ils votre vie? Que allez-vous faire? Maintenant permettez-moi de dire ceci, cela ne signifie pas que tout le monde doit s'enfuir dans la jungle ou dans une terre persécutée. Mission. J'emprunte cela à William Carey et je l'ai un peu modifié. Il a dit, « Je descendrai dans la mine qui est l'Inde, mais qui tiendra la corde pour que je descende ?» Vous voyez, toute la vie chrétienne consiste soit à descendre dans le puits pour secourir, soit tu tiens la corde pour ceux qui descendent. C'est ça. Certaines sont appelées à être missionnaires, certaines sont appelées à être prédicatrices, certaines sont appelées à être mères. Je pourrais énumérer une longue liste de mères dont les fils et les filles ont changé le monde. Certains sont censés être des pères, des soudeurs, des charpentiers, des médecins, des avocats. Je ne dis pas que tout le monde est censé faire la même chose, mais ce que je dis, c'est que tout le monde doit le faire avec la même motivation, la même passion, le même objectif, et avec la compréhension que tout ce qu'ils font maintenant, parce que le couvercle de la tombe a été arraché et la tombe a été remplie de lumière. Tout ce que vous faites, même la tâche la plus subalterne, changez les couches d'un futur missionnaire. Dans l'amour et la fidélité, chaque élément a un sens et chaque élément a une récompense. Passion, à cause de celui qui est mort. Le discernement, que veut-il que vous fassiez? L'espoir. Faites-le de toutes vos forces, car chaque instant compte. J'entends parfois des conférenciers chrétiens parler du profane et du sacré. Eh bien, c'est absurde si vous êtes chrétien, il n'y a rien de séculier. Même les casseroles et les poêles de votre maison ont un sens. Vous devez savoir ce que vous êtes censé faire. Mais pour avoir la motivation de le faire dans un monde aussi déchu et sombre, vous allez devoir le connaître, sa beauté, sa gloire, son espoir, ses promesses. Et ils vous porteront. Être de fidèles serviteurs du Dieu Très-Haut. Prions. Père, merci pour ta parole, et je prie, mon Dieu, que tu l'utilises dans la vie de ces chères personnes. Au nom de Jésus, Amen. Une autre chose que je veux dire, c'est que si vous êtes ici aujourd'hui et que vous ne connaissez pas Christ, vous ne connaissez pas Christ. J'ai été élevé, ma mère qui était chrétienne, m'a emmené à l'école du dimanche, j'ai fait une prière. Cela n'a aucun sens. Êtes-vous chrétien? Jésus a dit que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Avez-vous vécu une vie de dévotion à Christ? Maintenant, vous pouvez dire, « Eh bien, je pensais que c'était tout, vous savez, la grâce et la foi et que cela n'avait rien à voir avec le travail. Le salut est tout de grâce et c'est par la confiance en Christ. » Mais si vous avez cru en Christ, vous avez aussi été régénéré par le Saint-Esprit et ce Saint-Esprit qui a commencé une bonne œuvre et vous la terminerez et portez du fruit. Si je mourais maintenant, j'irais au paradis. Pas parce que nous avons créé des orphelinats ou implanté des églises ou aidé l'église persécutée. Si je mourais maintenant, j'irais au ciel pour une raison. Jésus-Christ a versé son sang sur le calvaire. Jésus-Christ a subi la colère de Dieu que je méritais. Si je mourais maintenant, j'irai au ciel parce que Jésus-Christ est mort pour ce misérable pécheur. Je n'ai contribué à mon salut que par mon péché. Et je n'ai rien contribué à ma marche chrétienne, sauf ma faiblesse. Il est tout. Il est tout. Et si vous voyez votre péché et votre besoin, ayez confiance en Christ. Ayez confiance en Christ. Maudissez votre propre pharisaïsme. Regardez tout ce que vous pensez être bon en vous et envoyez-le en enfer. La personne qui est sauvée, elle est sauvée sans la moindre once d'autosatisfaction sur le dos. Ils savent que s'ils vont au ciel, ils y vont parce que Jésus a tout fait. Ce n'est pas Jésus à 99% et nous à 1% parce que nous échouerions à 1%. C'est 100% Jésus et nous lui faisons confiance. Il a tout fait. Il n'y a qu'un seul héros dans cette histoire. C'est notre frère aîné. Le Dieu, le Fils, qui est devenu un homme, qui a vécu la vie parfaite que nous ne pouvions pas vivre parce que nous ne la vivions pas, parce que nous haïssions Dieu et nous haïssions Dieu parce que nous aimions notre propre péché. Il est venu, a parfaitement obéi à Dieu et est ensuite allé vers cet arbre. Et sur cet arbre, il a porté les péchés de son peuple et toute la colère de Dieu, tout l'enfer qui devait tomber sur moi pendant toute l'éternité est tombé sur lui jusqu'à ce qu'il s'écrie, « C'est fini, payé en totalité, tout ce que Paul Washer j'aurais dû payer en enfer, j'ai payé sur cet arbre. » Et jette-toi sur lui. Jetez-vous sur lui. Parfois, je dirai aux gens de courir vers Christ. Et s'ils disent que je ne peux pas courir, je dis marcher vers Christ. Si je ne peux pas marcher, ramper vers Christ. Je ne peux pas ramper, tomber. Tu peux tomber, ne peux-tu pas tomber sur Christ? Lâche cette falaise accrochée à ta propre justice. Laisse tomber. C'est des ordures. C'est refuge. Et tombez sur Christ car il est fidèle pour vous rattraper. Dieu vous protège. Merci.